si nous sommes honnêtes, si nous sommes honnêtes, nous admettrons que nous voulons être les maîtres de notre vie, n'est-ce pas? Les maîtres de nos choix, les maîtres de nos préférences, de nos pensées, de notre destin. On pense par exemple qu'on est maître de son propre corps, n'est-ce pas? On parle souvent du droit de faire ce qu'on veut de son corps. On est libre de faire ce qu'on veut. Mais malgré ce qu'on pense, on a des limites, n'est-ce pas? Beaucoup de limites. On n'est pas libre de marcher sur les eaux, de voler dans les airs. On n'est pas libre de se transformer en quelque chose d'autre qu'un être humain. On pense être le maître, bien sûr, mais on ne peut pas contredire la logique en réalisant un carré rond. On n'est même pas maître de ce qu'on croit. On est limité par notre manque de connaissances. On n'est pas libre de croire sincèrement, par exemple, en quelque chose dont on sait que c'est faux. Nous ne sommes donc pas les maîtres de notre vie. On n'est pas libre de vivre comme on veut. Il y a toujours des règles ou des lois qui nous imposent des limites. Nous ne sommes pas maîtres de notre avenir, de notre santé et même de notre prochain. Nous sommes soumis au pouvoir de cet univers, au pouvoir de ce monde, au pouvoir de ce pays. Et de toutes sortes de pouvoirs visibles et invisibles. Nous sommes soumis à la vanité de ce monde, selon la Bible. Nous sommes complètement désemparés. Voilà, c'est ça la réalité. Il y a toujours une autorité plus forte que nous, n'est-ce pas? Mais quelle est cette autorité? Quelle est cette autorité? Quel est ce pouvoir qui nous est tellement supérieur? Si nous ne sommes pas les maîtres de notre vie, quel espoir reste-t-il pour nous? Dans quelques instants, nous allons lire Ecclésiaste chapitre 8. Et la question qui est soulevée par ce texte est la suivante. Si l'homme n'est pas maître de sa vie, alors qui est le vrai maître? Qui est le vrai maître? Donc on va lire Ecclésiaste chapitre 8. Je vais inviter à Christophe de venir lire ce texte pour nous. Donc on va lire le chapitre 8 en entier. Ecclésiaste, chapitre 8, versets 1 à 17. Qui est comme le sage et qui connaît l'explication des choses? La sagesse d'un homme fait briller son visage, et la sévérité de sa face est changée. Je te dis, observe les ordres du roi, et cela à cause du serment fait à Dieu. Ne te hâte pas de t'éloigner de lui, et ne persiste pas dans une chose mauvaise, car il peut faire tout ce qui lui plaît. Parce que la parole du roi est puissante, et qui lui dira « Que fais-tu ?» Celui qui observe le commandement ne connaît point de choses mauvaises, et le cœur du sage connaît le temps et le jugement. Qu'il y a pour toute chose un temps et un jugement, quand le malheur accable l'homme. Mais il ne sait point ce qui arrivera, et qui lui dira comment cela arrivera. L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir, et il n'a aucune puissance sur le jour de sa mort. Il n'y a point de délivrance dans ce combat, et la méchanceté ne saura sauver les méchants. J'ai vu tout cela, et j'ai appliqué mon cœur à tout ce qui se fait sous le soleil. Il y a un temps où l'homme domine sur l'homme pour le rendre malheureux. Alors j'ai vu des méchants recevoir la sépulture et entrer dans leur repos, et ceux qui avaient agi avec droiture s'en aller loin du lieu saint et être oubliés dans la ville. C'est encore là une vanité. Parce qu'une sentence contre les mauvaises actions ne s'exécute pas promptement, le cœur des fils de l'homme se remplit en eux du désir de faire le mal. Cependant, quoique le pécheur fasse 100 fois le mal et qu'il persévère longtemps, je sais aussi que le bonheur est pour ceux qui craignent Dieu, parce qu'ils ont de la crainte devant lui. Mais le bonheur n'est pas pour le méchant, et il ne prolongera point ses jours, pas plus que l'ombre, parce qu'il n'y a pas de crainte devant Dieu. Il est une vanité qu'il y a lieu sur la terre. C'est qu'il y a des justes auxquels il arrive selon l'œuvre des méchants, et des méchants auxquels il arrive selon l'œuvre des justes. Je dis que c'est encore là une vanité. J'ai donc loué la joie, parce qu'il n'y a pas de bonheur pour l'homme sous le soleil qu'à manger, à boire et à se réjouir. C'est là ce qui doit l'accompagner au milieu de son travail pendant les jours de vie que Dieu lui donne sous le soleil.
lorsque j'ai appliqué mon cœur à connaître la sagesse et à considérer les choses qui se passent sur la terre, car les yeux de l'homme ne goûtent le sommeil ni jour ni nuit. J'ai vu toute l'œuvre de Dieu. J'ai vu que l'homme ne peut pas trouver ce qui se fait sous le soleil. Il a beau se fatiguer à chercher, il ne trouve pas. Et même si le sage veut connaître, il ne peut pas trouver.
Merci Christophe. Avant d'aller plus loin dans ce texte, je vous invite à la prière. Seigneur, nous croyons que toute écriture est inspirée de toi, par toi, utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice afin que l'homme de Dieu soit adapté, préparé à toute œuvre bonne. Utilise donc ce texte pour l'édification de notre assemblée, Seigneur. Aide-nous à ne pas rester comme nous sommes, mais être transformés à ton image par la vérité de ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Je vous rappelle qu'une des préoccupations principales du livre de l'Ecclésiaste, c'est la vanité de la vie sous le soleil. C'est la vanité de la vie sous le soleil. Autrement dit, l'auteur de l'Ecclésiaste nous présente le tableau d'un univers où Dieu ne rentre pas vraiment en compte. Le Coëlète, c'est-à-dire le roi philosophe qui a écrit ce livre, le Coëlète nous montre que ce serait ce monde sans Dieu, afin de montrer combien cette alternative est absurde. C'est un genre d'argument anthropologique qui expose les problèmes du nihilisme, du matérialisme et de l'humanisme, c'est-à-dire l'idée que l'homme est au centre de l'univers. Le Coëlète nous montre les problèmes qui sont soulevés quand on présuppose que l'homme se définit lui-même, quand l'homme essaie de créer sa propre essence. C'est l'existentialisme dans un sens. Et 3000 ans avant Jean-Paul Sartre, qui était un existentialiste du XXe siècle, le Coëlète répond déjà à la doctrine de l'existentialisme. Sartre dit que chaque vérité, que chaque action implique l'homme. Tout commence par l'homme. Tout se résume à l'homme. Et l'essence de l'homme est une création de la subjectivité de l'homme. C'est l'homme qui crée l'homme, dans un sens. Mais si Dieu existe, il y a donc un être auquel l'existence de l'homme et son essence sont éternellement liées. Ça veut dire que l'homme n'est pas maître de sa propre vie. Que le caractère contradictoire de son essence, de sa nature, n'est pas une absurdité inéluctable. Malgré ce que dit le monde, nous ne sommes pas donc les maîtres de notre vie. Le Coëlète illustre ce principe en soulignant deux choses dans ce texte. Il y a deux points. D'une part, que l'homme est soumis à des pouvoirs qui le dépassent. Et d'autre part, que l'homme est soumis à des jugements qui lui échappent. En effet, l'homme n'est pas maître. L'homme n'est pas maître. Regardez maintenant les versets 1 à 8. Dans ces versets, je veux que vous reteniez l'idée que nous sommes soumis à des pouvoirs qui nous dépassent. Ces versets commencent par un appel à la sagesse. Bien que le verset 1 doit peut-être être attaché à la section précédente, le conseil qu'il donne concernant la sagesse s'applique aussi bien au verset 2 à 8 et à notre relation avec les autorités qui nous gouvernent. Dans le monde antique, les gens se soumettaient souvent à leur roi par des serments d'obéissance, comme on voit dans le verset 3. Et nous aussi aujourd'hui, nous sommes soumis à certaines lois et à certains principes dans notre pays aussi. Et donc ces versets commencent par nous rappeler notre soumission au pouvoir de l'État. Ensuite, quand le verset 3 nous dit de ne pas nous presser de nous éloigner de la présence du roi, ça ne veut pas dire ne marche pas trop vite quand tu quittes le palais de l'Élysée, par exemple. C'est pas ça l'idée. Ça veut dire plutôt qu'il ne faut pas se précipiter pour remettre en question les autorités qui nous gouvernent. C'est un conseil pour vivre plus tranquillement sous une autorité qui est peut-être opprimante. N'attire pas l'attention sur toi plus que nécessaire. C'est vraiment ça l'idée de ce verset. C'est pourquoi le verset 4 nous conseille aussi de ne pas remettre en question le roi. Le Coëlète veut dire que vous n'êtes pas plus apte que le roi à être roi. Et même si vous l'étiez, vous ne pouvez rien y faire parce que vous n'êtes probablement qu'un simple paysan. C'est ça l'idée. Nous pensons que nous avons la bonne réponse à tous les problèmes politiques. Nous voudrions être roi. Nous voudrions être calife à la place du calife. Nous pensons comme ça. Tout le monde doit voir le monde comme je vois le monde. Nous élisons un président et quelques mois plus tard, nous regrettons notre décision, n'est-ce pas? Quand nous n'aimons pas notre roi, nous provoquons la révolution. Nous remplaçons le roi par un dictateur, le dictateur par un roi, le roi par la démocratie. Et nous nous plaignons sans cesse de notre choix d'un conducteur. C'est normal. Mais le Colette nous rappelle que nous ne pouvons pas changer le fait que nous sommes soumis à des pouvoirs qui nous dépassent. Dans notre monde aujourd'hui, il existe des gouvernements très stricts, mais aussi très brutaux. Il existe des gouvernements très libéraux, mais aussi moralement laxistes. Il existe des gouvernements qui mélangent les deux, qui demandent une stricte et rigide acceptation de l'immoralité. Et est-ce qu'on doit se soumettre à ces autorités? La Bible dit, oui. Même si une persécution effrayante, l'apôtre Paul dit ceci dans Romains chapitre 13. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a pas d'autorité que ne vient de Dieu. Les autorités civiles sont instituées par Dieu. Elles existent pour le bien et pour l'ordre de la société. Mais encore une fois, est-ce qu'on doit se soumettre à ces autorités? La Bible dit oui, mais tant que cela ne nous oblige pas à enfreindre directement la loi morale de Dieu, et tant que cela ne nous oblige pas à renier notre foi. Dans le livre des Actes, chapitre 5, quand les autorités ont interdit aux croyants de parler de Jésus, l'apôtre Pierre a dit, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et donc, nous obéissons aux autorités en priant pour elles et en faisant le bien, sans abandonner la morale, n'est-ce pas? Sans abandonner la foi. Et c'est exactement cette obéissance à Dieu qui a conduit le pasteur André Trocmé et son assemblée à résister au nazisme et à cacher plus que 3000 juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est exactement cette obéissance à Dieu qui a conduit William Wilberforce et d'autres chrétiens en Angleterre à défier leur gouvernement en demandant l'abolition de l'esclavage. C'est cette obéissance à Dieu qui a conduit des milliers de chrétiens à se joindre à des centaines de milliers d'autres personnes dans des manifestations à Paris l'année dernière pour montrer leur désaccord avec le projet de loi du mariage pour tous. Un projet soi-disant humaniste, mais qui détruit la structure naturelle de la famille, qui se moque de l'essence de l'homme et de la femme, qui entérine une sexualité contraire à la Bible, et qui, en fin de compte, abîme l'individu et la société à laquelle il appartient. Heureusement que l'homme a une voix qu'il peut faire entendre parfois, mais malgré ça, il est toujours et à jamais soumis à des pouvoirs qui le dépassent. Les versets 6 à 8 mettent l'accent sur l'idée que nous sommes soumis à des pouvoirs qui nous dépassent, en ajoutant que même les rois et les gouvernements de ce monde sont soumis à un pouvoir plus fort qu'eux, c'est-à-dire un destin commun, à savoir la fin, la mort, le jugement qui concerne tout le monde. On peut suivre les conseils de notre médecin, on peut faire de l'exercice physique chaque jour, on peut prendre toutes les précautions nécessaires, mais on ne peut pas changer son destin, n'est-ce pas? Imaginez que votre médecin vous dise que vous n'avez que 3 mois à vivre. Vous ne pouvez pas dire, d'accord, je prends juillet et août pour des vacances à la mer et ensuite décembre pour pouvoir passer des fêtes avec ma famille. Ça ne marche pas comme ça. L'homme n'est pas maître. C'est ça vraiment l'idée. L'homme n'est pas maître. Il y a des pouvoirs qui vous dépassent dans ce monde, des pouvoirs plus forts que vous, des pouvoirs auxquels vous êtes soumis. Et ça, c'est décourageant des fois. Mais si vous êtes chrétien, vous savez que tous ces pouvoirs, parfois menaçants, sont soumis à leur tour à Jésus, le roi des rois. En reconnaissant la suprématie de Jésus, on peut mieux vivre dans la soumission au pouvoir terrestre. On n'a pas besoin d'avoir peur des pouvoirs de ce monde. Jésus est roi. Les derniers versets, deuxième partie de ce texte, les derniers versets soulignent encore une fois que l'homme n'est pas maître de sa vie. Les versets 9 à 17 confirment cette idée en ajoutant que nous sommes soumis à des jugements qui nous échappent. Nous sommes soumis à des jugements qui nous échappent. Des fois c'est juste, des fois c'est injuste. Ces versets montrent qu'on a besoin de justice, mais que la justice de ce monde nous frustre. Le verset 11 nous fait comprendre que quand il y a un manque de justice, on a tendance soit à prendre la justice en main, soit à mépriser la loi en devenant indifférent. L'homme n'est pas maître. Il a besoin de quelqu'un qui puisse administrer la justice en sa faveur. Il a besoin de justice afin d'être justifié d'une part et afin d'être freiné dans ses actes d'autre part. On n'a pas besoin de faire d'efforts pour se représenter ces exemples d'injustice dans le monde aujourd'hui, n'est-ce pas? Un assassin qu'on laisse en liberté ou qui reçoit une simple réprimande. Un camarade de classe qui cartonne dans ses examens alors qu'il triche. Un collègue du travail malhonnête et paresseux qui reçoit une promotion alors que c'est nous qui suivons les règles. Nous pouvons facilement trouver des exemples d'injustice dans le monde, surtout quand nous en sommes les victimes. Les versets 14 à 17 répètent l'idée que nous sommes soumis. Nous sommes soumis au bien et au mal dans cette vie, avec toutes ces injustices, toutes ces frustrations, mais aussi toutes ces possibilités. Encore une fois, l'idée, c'est que soit pour le bien, soit pour le mal, il y a des pouvoirs qui nous dépassent. Et des jugements qui nous échappent. Ces versets ajoutent que même si on ne peut pas avancer dans cette vie, on peut au moins profiter des simples plaisirs dans la vie. Il y a de la souffrance, du travail dur, de l'injustice, on est d'accord, mais il y a aussi de la beauté, du plaisir, du divertissement qui rend la vie moins pénible. Après le travail vient le repos. Il y a des saisons difficiles suivies par des saisons de fêtes. Nous sommes tous en train de mourir selon ce texte. Mais le verset 15 nous rappelle que nous avons la possibilité de nous réjouir avant la fin. Comme le dit Proverbe 31, verset 6, « Donnez les boissons fortes à celui qui périt, et du vin à celui qui a de l'amertume dans l'âme, qui boive et oublie sa pauvreté. » Qui ne se souvient plus de sa peine. C'est l'idée de manger, boire et se réjouir. Je crois que ce que dit l'Ecclésiaste, ce que dit le Coëlète dans ce passage est très réaliste. Ces derniers versets prennent Dieu en compte, en soulignant le fait que malgré le compte misérable de la vie sous le soleil, il y a un Dieu au-dessus du soleil, il y a un maître. Le Coëlète, dans sa misère sous le soleil, ne nous donne pas explicitement la solution, mais il fait allusion à la solution. Le roi philosophe explique bien que quel est le problème. Il explique quel est le problème de la condition humaine, quel est le problème de notre malheur et de notre plaisir. Mais il dit aussi que c'est la vie. C'est la vie. Mais Dieu a révélé plus que ça. Le dernier verset de ce chapitre nous rappelle que l'homme cherche en vain la réponse à son existence. L'homme n'a pas la sagesse qu'il faut pour créer, pour diriger son existence, son essence. C'est pourquoi le Dieu qui a créé l'homme est devenu un homme lui-même, tout en gardant son essence divine, afin de nous sauver de la mort et du jugement. Nous sommes soumis à toutes sortes de pouvoirs qui nous dépassent dans cet univers, mais si nous nous soumettons à Christ, ces pouvoirs ne régneront plus sur notre vie. Plus vous êtes soumis à Christ, plus vous êtes libre. Vous êtes délivré de tous ces efforts absurdes et vains que vous faites pour essayer d'obtenir le salut par vous-même. Si vous êtes chrétien, vous bénéficiez toujours de la grâce de Dieu. Quand nous essayons d'expliquer notre existence, de nous justifier par nos propres philosophies, par nos propres sagesses, nous nous détournons en fait de la réponse claire et nette qui est juste devant nous. Imaginez l'absurdité de quelqu'un qui essayerait de crocheter la serrure d'une porte qui serait déjà grande ouverte. Les philosophies qui essaient d'expliquer l'homme font exactement ça. Nous jouons avec la serrure. Nous essayons de déverrouiller une porte avec tous les instruments, tous les outils de notre prétendue sagesse. Mais la porte est déjà ouverte. Et c'est la grâce de Dieu qui nous donne la foi de voir que le passage est vraiment libre. Quand vous êtes frustré par l'injustice et par les contraintes de ce monde, n'oubliez pas que vous n'êtes pas maître, vous n'êtes pas maître de votre vie. Dans un monde déchu, le monde a pris pour maître la mort et le péché, c'est comme ça. Le monde a pris pour maître une vision existentialiste qui dit que c'est nous qui décidons subjectivement ce que nous sommes. Dans un monde sous le soleil, ce genre de réponse est tout à fait logique. Mais le monde ne se résume pas à ce qu'il y a sous le soleil, n'est-ce pas? N'oubliez pas que le Dieu du ciel et de la terre est entré dans ce monde. N'oubliez pas que Jésus a pris notre mort et notre péché sur lui afin de nous offrir gratuitement la vie éternelle si nous mettons notre confiance, notre foi en lui. On n'a pas besoin d'être maître parce qu'on a un bon maître qui est Jésus-Christ. Je vous invite à la prière. Seigneur, aide-nous à te reconnaître. Toi le roi, le maître de l'univers. C'est toi le souverain maître de la vie et de la mort. Donne-nous une plus grande confiance en toi afin que nous te suivions fidèlement chaque jour, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen.